Thibaut de Rouvray, bonjour.
Bonjour Mathias Terrier.
Bienvenue sur cette antenne, vous qui êtes historien et qui êtes président de la Société Académique des Hautes-Pyrénées. Et vous nous permettez de visiter notre région à travers tout ce qui constitue notre patrimoine et en particulier notre patrimoine sacré, hein, dans toutes ses dimensions. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux cloches. Alors Thibaut de Rouvray, les cloches, ça date de quand à peu près? Est-ce qu'on saurait dater à partir de quand nos édifices religieux sont dotés de cloches?
Alors vraisemblablement depuis très longtemps, même si l'origine de ces cloches est un peu légendaire, on attribue l'invention, en tout cas en Occident, des cloches qu'on connaît dans les églises, à un évêque de Campanie, tout à fait en période au début du christianisme, un évêque Paulin, évêque de Nol. Et Campanie, hein, c'est le nom de cette région d'Italie qui a donné le nom à la cloche elle-même et à l'art campanaire qui en découle.
D'accord, donc le mot campanaire qui est vraiment l'art qui désigne tout ce qu'il y a autour des cloches, de fondre les cloches, les entretenir, faire en sorte qu'elles sonnent bien, ça vient de la Campanie, cette région d'Italie.
Tout à fait.
Il y a une définition qu'on pourrait donner d'une cloche, ce qu'est une cloche?
Alors si on prend, j'aime souvent me référer aux définitions du guitré, qui est un ouvrage un peu ancien mais qui fait référence, c'est un instrument qui est fabriqué en airain, en fait en bronze, en forme de coupe renversée, qui produit des sons retentissants à l'aide d'un battant qui est suspendu à l'intérieur ou qui peut être mis en mouvement par le branle de la cloche ou à l'aide d'un marteau placé à l'extérieur ou mu par des ressorts. Voilà, c'est la définition officielle, je dirais, du guitré.
Bon, ben voilà, c'est très clair. Est-ce qu'il y a une histoire de poids aussi? Parce qu'une cloche, on imagine que c'est gros, c'est conséquent. On va voir d'ailleurs qu'il y en a qui sont énormes. Mais est-ce qu'on a là une limite sur ce plan-là pour passer de la cloche à la clochette?
Oui, alors là aussi pour les spécialistes, les puristes, voilà, en dessous de 10 kilos, on ne peut pas parler de cloche. En dessous de 10 kilos, voilà, c'est une clochette ou ce qu'on appelle un timbre quand on sonne les heures ou voire une tinterelle.
S'agissant du matériau maintenant, des matériaux utilisés, on a l'habitude d'imaginer une cloche en bronze. On parle d'airain aussi parfois.
C'est voilà, la même chose. Oui, c'est synonyme. L'airain, c'est peut-être une forme un peu plus littéraire. C'est synonyme de bronze, qui est un alliage en fait de cuivre et d'étain à des proportions bien définies pour avoir un son particulier.
Mais il y a d'autres matériaux. On peut utiliser autre chose que le bronze ou l'airain.
Oui, alors il y a eu des essais, notamment sur des cloches très anciennes, en particulier celle qui est suspendue à Rocamadour, qui est, me semble-t-il, en fer. Et on a essayé aussi, au XIXe siècle, d'en produire en fonte, mais le son n'était pas très agréable. Donc on a vite renoncé pour garder le bronze.
Oui, et même en terre cuite, ça ne devait pas sonner aussi bien que ça.
Tout à fait.
Bon, donc voilà, on a compris la définition de la cloche. Le poids minimum, c'est 10 kilos. Et puis, il y a tous ces matériaux. Et la cloche aussi a une identité sonore, hein.
Oui, un petit peu comme les orgues. C'est vrai qu'au fil du temps, l'oreille a évolué. Hein. Ce n'est pas le même diapason qui prévaut à la construction des orgues ou à la fonte des cloches du Moyen-Âge à nos jours. Donc c'est vrai qu'on entendrait de nos jours sonner une cloche médiévale. Elle nous paraîtrait un peu fausse. Elle aurait un son particulier.
La cloche, elle est particulièrement à l'honneur dans le temps de Pâques. On sonne les cloches. D'ailleurs, les cloches apportent aussi hein, ces cadeaux, ces chocolats. Et aux enfants qui trouvent ça dans les jardins, bon, il y a toute une tradition autour de cela. Si toutes les cloches sonnent en France, il en sonne combien ?
Alors en France, on estime qu'il y en a environ 170 000.
170 000 cloches !
Voilà, donc à environ 4500 qui sont classées protégées au titre des monuments historiques.
Donc on imagine que si toutes les cloches de France se mettent à sonner en même temps, bon, ça, 170 000 cloches. Et alors, maintenant, c'est intéressant, nous, on a parlé du poids minimum de 10 kilos, mais il y en a qui sont énormes, des cloches. Il y a des records incroyables, hein.
Oui, on en a un exemple à Paris, sur la butte Montmartre, avec la Savoyarde, qui se trouve à l'intérieur du Sacré-Cœur, qui date de 1891, et il faut imaginer qu'elle fait 3 mètres de diamètre à la base, pour un poids de 19 tonnes.
19,9, c'est la plus grosse de France, c'est la plus conséquente.
Voilà, c'est la plus conséquente et ça a d'ailleurs été très compliqué à l'époque pour la hisser jusqu'en haut de la butte de Montmartre.
Alors, parlez-nous par exemple de celle de Notre-Dame de Paris. Bon, on est hors de notre région là, mais on connaît à peu près ses caractéristiques.
Oui, la plus célèbre, c'est le bourdon de Notre-Dame, hein, dont on entend notamment lors des grands événements historiques, hein, en particulier la libération de Paris, ce bourdon avec ce son très grave qui s'appelle Emmanuel. Hein, ce bourdon, il a été fondu en 1685 à l'époque de Louis XIV et il fait quand même près de 13 tonnes pour un diamètre de 2,60 m.
Bon, puisqu'on en est au record, au poids, il y a y a là des plus grosses en Europe. Je pense qu'il doit y avoir des cloches au-delà des 13 tonnes ou des 19 tonnes comme la Savoyarde.
Oui, alors nos voisins allemands à Cologne peuvent s'enorgueillir de posséder la Petersglock, qui est en fait la plus grosse cloche du monde qu'on peut faire balancer, et elle date de 1923 et pèse 24 tonnes et demie.
Bon, 24 tonnes et demie. Et alors, vous m'avez dit juste avant de commencer qu'à Moscou, là, elle ne sonne plus celle-là, mais elle est énorme. Combien pèse-t-elle, la cloche qui est sur la place rouge?
Alors, cette cloche qui est baptisée du tsar Kolokol II, elle date de 1733 et elle pèse presque 200 tonnes, hein, avec un diamètre de 6,60 m. Alors, malheureusement, elle est fendue. Il y en a un morceau qui s'en est détaché en 1737 et rien que le morceau détaché pèse 11 tonnes.
Bon, voilà, on a fait juste le tour des records, hein, du point de vue du poids. Maintenant, intéressons-nous au fonctionnement, aux caractéristiques, à aussi la façon dont les cloches rythment notre vie. Hein. On va voir tout ça parce que ça marque, même au plan social, finalement, les cloches. D'abord, les cloches sont dans les clochers.
Oui, ça paraît logique, hein. Il faut qu'elle soit en situation haute pour s'exprimer, avec les clochers qui sont souvent fermés par des petits volets, des abattants avec des persiennes, hein. On appelle ça des abassons, hein. Ces lamelles de bois inclinées vers le sol qui ont pour but de faire redescendre le son. Et on a souvent aussi dans les églises, à la verticale du chœur, un petit clocher. Alors dans les Pyrénées, on appelle ça le chimboulet. C'est un petit clocher où il y a une petite cloche qu'on va sonner au moment de l'élévation, au moment de la messe.
Et il n'y a qu'un seul moment durant l'année où les cloches se taisent.
Oui. Dans la liturgie, voilà, au moment du Jeudi Saint jusqu'au dimanche de Pâques, là, les cloches, ben, c'est là, à ce moment-là où elles sont parties à Rome, être bénies par le pape, et où elles vont ramener tous les chocolats et les œufs qui vont être dispersés dans les jardins.
Voilà, les cloches se taisent du Jeudi Saint au dimanche. Et dimanche, elle sonne, le dimanche de Pâques. Voilà. Donc voilà pour finalement le rythme de la vie d'une cloche, où elle est. Il y a tout un rituel de bénédiction, parce que la cloche a une place vraiment très singulière, hein, notamment dans l'édifice, mais également dans la vie des gens. Et donc il y a tout un rituel, presque une personnification de la cloche.
Oui, alors comme tous les objets de la liturgie, la cloche, elle est bénie. Alors on appelle parfois cette cérémonie le baptême, hein, puisque c'est vrai qu'on fait appel à un parrain, à une marraine, mais pour l'Église, c'est une bénédiction. Et il faut aussi bénir la cloche au moment même de la fonte du métal. C'est vrai que tout ce qui a lieu, ce qui a trait à la flamme, au métal en fusion, ça a des côtés un peu diaboliques. Donc il faut bénir ce moment-là. Et ensuite, une fois que la cloche va rentrer dans l'Église, qu'elle puisse être mise en service, il y a tout un rituel très précis avec de nombreux prières et oraisons qui sont prononcées, et même une part d'exorcisme aussi.
Oui, d'ailleurs, on bénit les cloches pour que s'éloigne la grêle, la foudre, bon, tous les intempéries.
Voilà, c'est toujours des phrases, hein, éloigner la foudre, les ravages du tonnerre, les calamités, le souffle de l'orage, sont des phrases de la liturgie de bénédiction.
Alors, les cloches portent des noms, des prénoms, souvent. On a parlé d'Emmanuel, hein. La cloche, c'est le bourdon Emmanuel, Notre-Dame de Paris. Et puis, les cloches, elles ont des parrains, marraines, elles portent des dédicaces. Bon, il y a des choses gravées sur les cloches, en fait.
Oui, alors souvent, en général, voilà, dans un but religieux, c'était la dédicace à un saint patron, c'est une prière. Mais parfois, les parrains et marraines ont souhaité aussi figurer, même si normalement l'Église ne le permet pas. On trouve sous l'Ancien Régime des parrains et marraines nobles qui ont fait figurer leur blason, leur devise et leur nom, un peu par fierté d'avoir financé cet objet.
Il y a deux rôles importants autour des cloches. Il y a celui qui la fond et celui qui la fait sonner. Sont les mêmes ou sont deux fonctions vraiment différenciées?
Alors ce sont plutôt des fonctions séparées, avec à l'image le fondeur de cloches jusqu'au 19e siècle, on va dire jusqu'à la révolution industrielle. C'est un artisan très spécialisé mais qui est itinérant. Les cloches sont souvent des objets très lourds, donc il faut les fondre sur place et parfois même dans l'église qui leur est destinée.
Donc on fond les cloches sur place. Puis après, il y a les sonneurs qui sont désignés. Ce sont ceux vraiment qui sont chargés de faire que la cloche fasse le bruit qu'il faut.
Voilà,
au bon moment.
Le sonneur dans la communauté paroissiale, autrefois, c'est un personnage particulier, hein, qui a une sorte de pouvoir de rôle quasi magique, hein, de pouvoir faire sonner cet instrument. Et voilà, les gens qui se souviennent avoir entendu des sonneurs, voilà, identifiaient très bien. Chacun avait un petit peu son coup de main, son rôle, un peu comme les carillonneurs de nos jours.
Alors, sur le rôle toujours de la cloche, parce que là, vous êtes allé chercher au 19e siècle, peut-être, c'est un prêtre hein, qui a désigné un peu le rôle que pouvait jouer une cloche.
Oui, alors dans les papiers d'un prêtre que j'ai pu récupérer pour les archives départementales des Hautes-Pyrénées, voilà, il avait fait une sorte de sermon ou d'exposé sur les cloches et il leur définissait cinq rôles principaux.
Et alors, quels sont ces rôles? On peut les énumérer rapidement.
Oui, le premier, bien sûr, c'est louer le vrai Dieu. Ensuite, en deuxième, appeler le peuple des fidèles aux cérémonies, assembler le clergé également, pleurer les défunts à l'occasion des obsèques. Alors, le cinquième rôle, il est un peu curieux, c'est je chasse la peste. Donc ça, il faut le voir aussi dans la fonction symbolique aussi d'éloigner tous les périls qui sont évoqués, notamment dans les prières de bénédiction. Et le dernier, c'est la réjouissance, je suis l'ornement des fêtes de la communauté.
Oui, il y a une croyance aussi qui court, hein, qui est très répandue, c'est que elle permet la cloche de lutter contre les orages.
Voilà, c'est une croyance très ancrée depuis le Moyen Âge, qui a perduré en gros jusque pratiquement à nos jours, notamment dans les régions de vignes. Il était de bon ton de sonner la cloche pour envoyer la grêle chez le voisin ou dans d'autres lieux que sur les récoltes.
Alors, pour terminer, nous allons voir comment la cloche, elle vraiment, elle rythme notre vie. Alors, surtout la vie des générations antérieures, hein. Elle sonne d'abord l'Angélus. Chacun se souvient d'abord du tableau, l'Angélus de Millet.
Oui.
Et c'est la cloche qui rythme la vie des champs et des paysans
Tout à fait, c'est
par
cette
l'Angélus.
sonnerie des cloches à la volée qu'on entend encore en général voilà, le matin à 7h, à midi et à 19h, qui rythme la journée en fait de travail et religieuse.
Bon, il y a aussi le glas, enfin, il y a la sonnerie des morts. Je ne sais pas si ça existe encore.
Non, mais c'est vrai qu'autrefois dans les Pyrénées, au moment, pendant la période où les personnes étaient en agonie, il y avait une sonnerie pour les accompagner et puis prévenir aussi la communauté paroissiale qu'il fallait prier pour cette personne qui était en train de trépasser.
Et bon, le glas, on connaît, hein, c'est lorsqu'il y a
Voilà.
des funérailles.
Tout à
C'est
fait, qui est
l'office des
toujours
funérailles
utilisé.
qui est accompagné par le glas. Le tocsin, je ne sais pas si les gens, enfin, des jeunes générations s'imaginent ce qu'est le tocsin.
Non, c'est vrai qu'on trouve cette expression de sonner le tocsin en général dans les livres d'histoire. Hein. Il faut imaginer, alors maintenant, ça, on se sert d'autres moyens pour prévenir les populations. Il y a des sirènes, maintenant, il y a même des bips ou des appels Internet.
Oui, ou
Mais
les réseaux sociaux.
tout à fait, ils sont tout aussi efficaces. Mais autrefois, voilà, pour appeler les gens, rassembler les populations, s'il y avait un incendie, une attaque, que sais-je, on sonnait d'une façon très particulière en tapant sur une cloche pour obtenir cette sonnerie du tocsin.
Bon, et puis il y a aussi quand les cloches sonnent à la volée, là c'est la fête, quoi. Ça accompagne les sacrements de joie, le mariage par exemple, des baptêmes, hein,
Voilà, les sorties
d'autres, les
de
sorties de
cérémonie, tout à
cérémonie.
fait.
Oui, donc ça s'appelle la volée. Hein.
Voilà, c'est quand elles sont lancées à la volée que le battant frappe sur les bords.
Donc c'est toute une codification des sonneries finalement, hein, qui.
Oui, alors notamment jusqu'au 19e siècle, où il y avait même dans les paroisses des classes d'enterrement, un peu
Ah
en
oui.
fonction voilà, de son statut social, de ses
Donc,
moyens.
au-delà de ce qu'on vient de se dire, finalement, on pouvait avoir des classes de sonneries, enfin des sonneries différentes selon la classe à laquelle on appartenait.
Effectivement, voilà, jusqu'au 19e siècle, en fonction que vous étiez un homme ou une femme et que vous apparteniez à tel milieu, vous aviez droit à telle cloche ou tel type de sonnerie.
Bon, eh bien, merci beaucoup, Thibaud de Rouvray, pour tout cet accompagnement que vous nous faites sur ces cloches. Terminons sur une question sans doute qui vous intéresse vous beaucoup, comme attaché au patrimoine et puis président de cette société académique des Hautes-Pyrénées, c'est comment vont les cloches? Comment vont nos cloches? Sont-elles en danger?
Et oui, comme beaucoup d'éléments du patrimoine, les cloches, il faut les surveiller parce qu'elles sont parfois difficiles d'accès, difficiles de surveillance. Et puis, ce sont des objets qui servent quasiment de façon quotidienne. Il y a des phénomènes d'usure, de fêlure. Donc, voilà, à nous aussi d'en prendre conscience et de préserver au moins les plus anciennes et puis de les faire perdurer encore de longs siècles.
Merci beaucoup Thibaud de Rouvray et à bientôt
À
sur cette
bientôt.
antenne. Au revoir.